La science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce vendredi grand portrait, on rencontre une grande dame de l'anthropogénétique, Evelyne Heyer est notre invitée. L'ADN, ce grand livre composé de seulement 4 lettres, A, C, D, G. Chez Sapiens, ce livre est fait de 3 milliards de ces lettres, soit une encyclopédie de 600 000 pages tout de même. C'est cette encyclopédie que décode l'anthropologue généticienne Evelyne Heyer. Comprendre notre espèce à travers ses cellules, oui, mais aussi à travers sa culture. Avec elle, on fait parler l'ADN pour révéler l'histoire de l'humanité, pour au passage déconstruire des clichés. Evelyne Heyer, là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Alors vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle en anthropologie génétique, directrice d'une unité de recherche en éco-anthropologie au Muséum et médaille de bronze du CNRS. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture jusqu'à 17h. Vous publiez chez Flammarion ce livre, La vie secrète des gènes. C'est la continuité de l'Odyssée des gènes paru en 2020 qui avait rencontré un grand succès. Alors le titre de cette émission, ce n'est pas un jeu de mots gratuit. Ce qu'il y a d'étonnant à cette lecture, lorsqu'on vous lit, c'est qu'on sent dans votre écriture tout le plaisir de votre métier. Je me trompe ?
Ah non, vous ne trompez pas. Alors franchement, j'adore mon métier et je ne savais pas qu'il existait. Si j'avais su, j'aurais choisi ce métier. Bon, bref.
Mais puisque c'est un métier plutôt récent.
Oui, c'est un métier récent et puis c'est complètement improbable parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas les outils pour faire tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et moi, je fais partie des gens, comme beaucoup de chercheurs, passionnés par mon métier.
Oui, ça se sent. Ça se sent au fil des pages. C'est un essai qui est très accessible, très agréable à lire. Ça donne envie de devenir généticienne. Et c'est un ouvrage qui mêle de nombreuses disciplines. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans votre démarche.
Oui, parce que l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Et si on veut comprendre l'homme, on ne peut pas se baser juste sur la biologie, la génétique. Il faut faire appel, bien sûr, aux sciences humaines. Donc, on mélange l'ethnologie, l'étude de la parenté, la linguistique, l'histoire, bien sûr, l'archéologie, et c'est vraiment le mélange de ça avec comme outil la génétique qui nous permet finalement de donner un autre regard sur ce qu'on sait de notre espèce, de sa diversité, de son évolution.
L'anthropogénétique, c'est comme ça qu'on peut définir cette discipline ?
Tout à fait. L'étude de la diversité autant génétique que culturelle, et de l'évolution de notre espèce.
Alors, l'ADN, c'est votre dada. Depuis la découverte de sa structure en double hélice dans les années 1950, on observe une popularité grandissante de la génétique, notamment de la génétique pour expliquer nos origines. On a vu le prix Nobel pour Svante Paabo, spécialisé dans la génétique évolutionniste, ou encore plus trivial, le succès toujours grandissant des tests d'hérédité, de génétique qui sont commercialisés. Quel est votre regard sur tout ça, sur ce contexte actuel ?
Alors, je suis plutôt contente que finalement l'ADN rentre dans notre société et surtout qu'on dépasse l'idée qu'on avait de la génétique, qui c'était surtout une vision médicale, juste titre. Il y a eu énormément de découvertes en génétique médicale, mais de voir aussi que finalement l'ADN, c'est une machine à raconter notre histoire. Je pense que ça, c'est assez nouveau et que ça diffuse dans le grand public, ça me fait bien sûr très plaisir, quoi.
Depuis quand on considère que l'ADN peut être une machine à remonter dans le temps, comme vous dites ?
Je dirais depuis à peu près les années 2000, quand on a commencé à avoir assez d'informations génétiques sur chaque individu. C'est-à-dire avant, on avait des données sur des populations, on pouvait les comparer, il y a eu des grands résultats, ça a permis de montrer qu'on venait d'Afrique, etc. Mais avec les nouvelles données qui sont plus denses au niveau de chaque individu, là, on peut retracer les ancêtres génétiques des individus. Et en partant de ça, on peut retracer s'il y a eu des migrations, pourquoi, on peut aussi retracer comment les gens se mariaient dans le passé. On a pu retracer énormément de choses.
Mais alors justement, est-ce que c'est une question qu'on est nombreux à se poser ? Est-ce que ces fameux tests génétiques sont fiables ? Et puis, s'ils le sont, comment ça fonctionne ?
En gros, vous voyez, vous avez votre ADN. Donc, comme vous avez dit, c'est très grand l'ADN. Il y a 3 milliards de lettres. Et il faut imaginer que vous le coupez en morceaux et que pour chaque morceau, vous le comparez comparez à des populations de gens qui existent à l'heure actuelle et vous dites, bah, ce bout d'ADN, il ressemble plutôt à des Italiens, ce bout-là plutôt à des gens qui vivent au Sénégal, ce bout-là plutôt à des Japonais. Et donc, tous ces bouts qu'on compare, ça va vous donner un pourcentage. Vous avez 12% de votre génome plutôt italien, 20% plutôt d'origine du Sénégal, etc. Donc, voilà un peu la démarche, voilà la logique derrière. Donc, on voit bien que les résultats vont dépendre de vos populations dites de référence. Comment vous définissez un Italien ? Par exemple, comment vous définissez un Français ? Si votre population de référence, c'est des Français qui vivent du côté de Nice, il y a des chances, si vous êtes plutôt du nord de la France, qu'on vous trouve plutôt belge que français. Donc, vous voyez, il peut y avoir des erreurs. Donc, je dirais, à une échelle géographique mondiale, c'est à peu près exact. Par contre, à des échelles plus précises, c'est en général assez inexact. Et le problème de ces tests, c'est qu'on donne notre ADN à des compagnies en général privées, à l'extérieur de la France, vu que c'est interdit en France, et que eux, ce qu'ils en font, ça vous échappe complètement.
Oui, les données, ça c'est la question des données personnelles, mais néanmoins, cette popularité, ça dit peut-être quelque chose, ça exprime peut-être une quête des origines qui est très forte aujourd'hui.
Je pense que la question d'où venons-nous a toujours été très forte. D'ailleurs, quand on a refait le musée de l'homme, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous ? Et ça a toujours été quelque chose qui a intrigué tout être humain. Et dans n'importe quelle société, vous avez une histoire des origines. Et là, finalement, c'est un nouvel outil. Sans compter que cet outil, on le voit sur les réseaux sociaux, a permis d'aider beaucoup de gens qui voulaient retrouver leur origine. Au début, ça a été lancé par les populations descendantes des esclaves africains aux États-Unis, ce qu'on va dire les Afro-Américains, qui voulaient retracer d'où ils venaient. Parce que eux, bien sûr, il y a une souffrance forte de cette perte de mémoire liée à l'esclavage. Et à partir des données génétiques, ça permettait de retracer plutôt s'ils venaient de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, et un peu plus précisément. Donc ça répond à un souhait tout à fait légitime. Des quêtes de l'origine. Le problème, c'est quand ça devient quelque chose qui bloque quelqu'un dans une espèce d'identité. J'ai des ancêtres qui viennent de tel pays du monde, alors je vais penser comme ça, je vais aimer cette musique, je vais aimer, je sais pas moi, cette cuisine, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est plutôt construit par l'éducation.
Alors, on parle de cette popularité actuelle pour la génétique. Qu'est-ce qui a nourri votre attrait à vous pour la génétique, Evelyne Heyer, pour revenir sur votre formation, aux origines de cette passion qu'est la génétique?
Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour la théorie de l'évolution. Non mais vraiment un coup de cœur intellectuel. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà vécu ça, mais on peut avoir des coups de cœur intellectuels. Et moi, ça a été la théorie de l'évolution. Et il se trouve que la génétique, c'est un des outils qui permet de tester cette théorie, de la travailler, de l'analyser. Parce que en fait, ça fait de la biologie et ça fait aussi des maths. Et j'aime ça.
Et ça fait un bon mélange, en effet. Mais,
ouais.
Mais alors quand vous lisez Darwin, justement, qu'est-ce qui vous a frappé au moment de cette lecture, cet apprentissage? Vous êtes étudiante. Vous souvenez?
C'est vraiment l'idée fondamentale qu'on ne peut comprendre la diversité de la vie que dans le cadre de la théorie de l'évolution, qui permet de nous expliquer toute cette richesse biologique qu'on trouve sur la planète. Et j'ai trouvé ça, fascinant, quoi. Enfin, c'est un coup de cœur.
Alors, vous avez fait, comme vous dites, une classe préparatoire maths et biologie. Comment on en arrive à l'anthropologie génétique? D'autant que comme on l'a dit aussi en début d'émission, c'est une discipline qui pose ses jalons. Comment vous êtes arrivé là?
Eh ben, en fait, il se trouve que j'ai fait une thèse sur les populations humaines. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi dans une population humaine donnée, il y avait une forte prévalence d'une maladie. Donc, qu'est-ce qui faisait en termes d'évolution dans l'histoire de cette population qu'on trouvait une concentration forte d'une maladie? Alors, j'ai étudié les généalogies parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas autant d'ADN et j'ai vu que la population, il y avait beaucoup d'immigration. Donc, c'était pas une histoire d'une population isolée, etc. Et du coup, pour comprendre cette forte fréquence de maladies, il a fallu mettre tout de suite du social et du culturel, à savoir dans ce cas-là que les individus qui avaient accès à la propriété, leurs enfants avaient tendance à rester dans la vallée, alors que les immigrants qui arrivaient au bout d'une ou deux générations avaient plutôt tendance à repartir. Et donc c'est un phénomène culturel, dans ce cas-là, l'accès à la terre qui était transmis de génération en génération, qui faisait qu'on obtenait cette espèce de concentration de maladies génétiques dans cet endroit-là. Et donc, ça a été vraiment le début de tout ce que j'ai développé après, cette idée que la culture aussi joue dans notre évolution. Et quand j'ai fait ça sur ma thèse, quand on fait une thèse, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'était très, très novateur, parce que jusque-là, on pensait que la culture n'avait rien à voir avec la biologie, avec l'évolution de l'homme, que c'était des choses complètement séparées. Et de montrer comment, en fait, c'était imbriqué, c'était quelque chose de très nouveau et qui, après, a été le fil directeur de toutes mes recherches.
Oui, c'est ça. Pour vous, ça vous a paru être une évidence que la génétique ne pouvait pas vous donner toutes les informations suffisantes pour comprendre une population ou notre espèce.
Voilà, il faut de la culture si on veut comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionne son évolution et sa diversité.
Impossible de comprendre l'humain sans passer par les sciences humaines.
Ah non, et alors j'ai eu la chance pendant ma thèse de travailler avec des historiens, des démographes, puis après quand je suis revenue en France de monter des projets sur des populations contemporaines actuelles où là j'ai travaillé avec des ethnologues, des linguistes, voilà.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h11 sur France Culture avec notre invitée du jour, Evelyne Meyer, anthropogénéticienne. Alors, l'anthropologie génétique, ce n'est pas qu'un travail de laboratoire. Vous dites, dans l'Odyssée des gènes, votre précédent ouvrage, l'anthropogénétique, c'est avant tout un travail de terrain. Vous avez d'ailleurs beaucoup voyagé lors de vos recherches. Alors comment ça se passe sur le terrain? Racontez-nous, si vous pouvez nous faire un peu imaginer à quoi ça ressemble concrètement la vie d'une anthropogénéticienne sur le terrain.
Bon, alors ça dépend des pays. J'ai eu la chance de travailler en Afrique centrale avec des populations que nous on appelle les pygmées, et là j'ai eu la chance de travailler avec des ethnologues qui travaillent depuis des années sur ces différentes populations à travers l'Afrique. Il y a même des étudiants en thèse qui sont allés, etc. Donc là, c'était, on va dire, facile parce que le terrain était, on va dire, défriché. Maintenant, j'ai travaillé aussi dans d'autres pays, comme par exemple en Russie, le sud de la Sibérie, en Asie centrale, où là, c'est un peu plus compliqué, où il faut travailler. Déjà, il faut trouver un chercheur sur place qui a envie de travailler avec vous. Et après ça, il faut dérouler les autorisations. Alors, les autorisations dans des pays très administratifs comme les anciennes républiques de l'URSS, vous en avez des étages à décliner. Donc, vous allez convaincre le ministre va vous donner une lettre pour aller convaincre le chef de région, qui va vous donner une lettre pour aller voir le sous-chef de région ou le chef du district, pour aller voir le sous-district, pour aller voir jusqu'à arriver finalement à l'endroit où vous voulez aller. Et là, vous vous présentez auprès des autorités. Ça peut être soit le maire, soit on passe par le milieu médical. Vous expliquez ce que vous voulez faire à chaque fois, bien sûr. Vous buvez des coups pour sceller les autorisations. Vous continuez et à la fin, vous arrivez et vous voyez les gens. Et après ça, vous réexpliquez aux gens pour avoir leur consentement éclairé. Donc, il faut trouver la manière d'expliquer ça qui parle. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire prélever de l'ADN, soit avec le sang, soit avec la salive. Et en parallèle, vous faites des enquêtes ethnologiques, des enquêtes alimentaires, des enquêtes linguistiques. Et bien sûr, vous faites des banquets, parce que nous sommes français. Et ça marche.
Alors, par exemple, en Afrique, vous travaillez donc avec des populations qu'on appelle les pygmées. Ça, donc, vous échantillonnez cette population-là. Vous travaillez sur quoi à ce moment-là, plus précisément?
Alors, moi, on a monté des programmes où là, c'est un étudiant qui est allé pour retracer l'histoire des populations pygmées. Et après, j'ai monté aussi d'autres projets avec d'autres chercheurs pour aller voir, par exemple, dans des problèmes d'audition, pour voir quel était leur niveau d'audition, est-ce que c'était comparable à d'autres populations, et d'autres travaux sur les perceptions du goût. Voilà.
Et alors, est-ce que vous avez, parce que là, tout ça, ça a l'air d'être assez rocambolesque, est-ce qu'il y a un terrain en particulier qui vous a frappé, ému particulièrement ?
Alors, j'aime beaucoup travailler chez les populations que l'on dit pygmées, parce qu'on a un accueil extraordinaire et c'est vraiment une autre manière de voir la vie. Et j'ai trouvé ça très, je dirais, bouleversant d'un point de vue humain. Sinon, bien sûr, il y a eu plein d'aventures rocambolesques du genre Tintin chez les Russes quand j'ai travaillé en Russie ou dans les pays d'Asie centrale. On a eu des interrogatoire par le FSD, on a été suivi par des agents plus ou moins secrets, mais qu'on repérait tout de suite dans les différents pays. Donc il y a vraiment de tout. Et puis c'est le côté marrant. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on est bien accueilli. Vous savez, vous pouvez pas vous imaginer quand vous arrivez dans des pays, quand vous dites que vous venez de France, comme en général, vous êtes super bien accueilli.
Bon, alors on parle en tout cas de ces expériences de terrain. Retour en France. Là, on a parlé de vos échantillonnages. Comment ça se passe, du coup, dans un laboratoire ?
Ah, alors après, c'est long, après. Parce que du terrain au résultat, c'est long. Alors déjà, les échantillons, il faut extraire l'ADN. Après ça, il faut lire les informations qui nous intéressent dans l'ADN, ce qu'on appelle le séquençage ou le génotypage. Voilà les noms qui correspondent à ça. Et après, il y a un gros travail d'analyse sur l'ordinateur. Et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire comment extraire de l'information à partir de toutes ces données.
Alors là, vous avez dit le mot génotypage. Là, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Hein. C'est-à-dire l'étude des génomes. Comment ça fonctionne, ces analyses, plus précisément ?
En fait, on va regarder dans l'ADN des individus les différences entre les individus. Donc, si on imagine qu'on lit tout l'ADN, après, on va comparer les individus pour leur ADN et on va voir dans quelle mesure ils se ressemblent et dans quelle mesure ils sont différents selon les endroits d'où ils viennent, selon la langue qu'ils parlent ou aussi selon, on va dire, le système de parenté de la société dans laquelle ils vivent. Et à partir de là, on va pouvoir tester des hypothèses et pouvoir dire, ah ben oui, le système de parenté, c'est quelque chose d'important pour expliquer les similitudes ou les différences entre les ADN des individus qu'on a échantillonnés.
Alors, de ces comparaisons entre génomes, vous aussi, vous arrivez à retracer l'histoire. Ça aussi, je veux bien qu'on explique aussi comment c'est possible et avec quel principe ces comparaisons-là
fonctionnent. Je vais vous le faire facilement. En fait, derrière, il y a plein de calculs. Hein, Mais bon, en gros, vous recevez votre ADN pour moitié de votre père, moitié de votre mère, un quart de chacun de vos grands-parents, un huitième de chacun de vos arrière-grands-parents, etc. Donc finalement, quelque part, dans votre ADN, il y a un peu l'ADN que portaient vos ancêtres. Et donc, si vous comparez des individus, par exemple, on va dire des individus en Asie centrale et des individus en Mongolie, en comparant leur ADN, vous allez voir qu'ils ont des bouts d'ADN qui se ressemblent et que donc, ils ont une parenté dans le passé. Et que donc, il y a bien des gens qui ont bougé entre l'Asie centrale et la Mongolie dans le passé. Et donc, à partir de là, vous arrivez à retracer comme ça des migrations dans le passé. Et ça, c'est extraordinaire, c'est toute la partie histoire du peuplement. Et vous arrivez aussi à retracer comme ça aussi comment les gens se mariaient.
C'est ce qu'on appelle aussi le principe de l'horloge moléculaire.
Ah oui, alors l'horloge moléculaire,
qu'on revient là, par rapport,
c'est
justement au taux de mutation, voilà, pour cette fameuse plongée dans le temps. Ça, c'est un outil.
Heureusement qu'on l'a, l'horloge moléculaire. En fait, c'est l'idée plus ou moins exacte qui est souvent débattue que grosso modo, les différences, c'est-à-dire les mutations dans l'ADN, apparaissent proportionnellement au temps. Donc, entre deux individus, les différences qu'il y a entre eux, on peut regarder à quelle période ça correspond, les différences entre deux individus, et donc de quand date leur ancêtre commun pour un bout d'ADN.
C'est ça, c'est qu'on est tous porteurs à peu près de 70 nouvelles mutations que nos parents ne portaient pas, c'est ça ?
Oui, on a sans arrêt des nouvelles mutations qui apparaissent et donc quelque part on a la signature génétique des différents ancêtres. Bon, je sais que voilà, là je vous le fais un peu vite et en plus comme on est tous cousins, en fait, l'idée c'est avec cet ADN un peu de retracer l'énorme généalogie de nos ancêtres génétiques et de voir ce qui s'est passé.
Alors là, vous dites nous sommes tous cousins, ça c'est au cœur de votre livre et de tous vos ouvrages, et de la génétique, grosso modo, c'est la grande uniformité génétique de l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on entend par l'uniformité génétique ?
Ah, bah si vous comparez deux humains au hasard, il n'y a qu'une lettre sur 1000 qui est différente dans l'ADN entre deux humains. Ça ne vous dit rien ? Mais pour comparer, par exemple, chez les orangs-outans de l'île de Bornéo, il y a 3 fois plus de différence. C'est-à-dire 2 orangs-outans de l'île de Bornéo ont 3 fois plus de différence génétique que si vous prenez un Européen, quelqu'un du Sénégal, quelqu'un de la Chine, quelqu'un d'Amérique, 3 fois plus de différence. Donc on est une espèce où il y a peu de diversité génétique.
C'est-à-dire qu'entre vous et moi, Evelyne Ayer, entre vous, moi et vous, auditeurs qui nous écoutez, il n'y a que 0,1% de différence dans nos génomes.
On est identique à 99,9%.
Mais alors ces différences, ça correspond à quoi ?
Alors dans ces différences, il y en a plein qui servent à rien, parce qu'il y a une grande partie, on va dire, de l'ADN qui ne sert pas à grand-chose, et il y en a une petite...
L'ADN non codant, c'est ça ?
L'ADN non codant, voilà. Bravo ! Et il y a une toute petite partie qui change quelque chose. Donc par exemple, dans l'ADN qui change quelque chose, vous avez l'ADN, les petits bouts d'ADN qui sont liés à la couleur de peau, vous avez des petits bouts d'ADN qui sont liés à la taille, vous avez des petits bouts d'ADN qui sont liés à des maladies, à des susceptibilités à des maladies, etc. Donc vous avez une partie de l'ADN qui sert à rien et qui vous retrace l'extraordinaire histoire des migrations, des mariages de l'humanité, et un petit partie qui vous raconte plutôt, on va dire, des adaptations dans le passé, c'est-à-dire comment dans le passé, face à des nouveaux environnements, notre ADN a permis de s'adapter à des nouveaux environnements.
Mais alors, si nous sommes tous presque identiques à 99,9%, ça s'explique comment, ça, plus précisément ?
Alors, en fait, c'est parce qu'on a été pendant très longtemps une petite espèce. Alors, pour vous la refaire... rapidement, il y a environ 7 millions d'années, ce qui va devenir notre espèce se sépare de ce qui va devenir les chimpanzés et les bonobos. On évolue en Afrique, il y a quelques sorties, mais on n'est pas sûr qu'il y a eu beaucoup d'Afrique, on n'est pas sûr qu'il y a eu des descendants, etc. Et il y a environ 300 000 ans, notre espèce émerge en Afrique, mais pendant tout ce temps-là, on est une petite population. En fait, on est moins nombreux que les grands singes à cette époque-là. Et arrivé, il y a environ donc 300 000 ans, notre espèce émerge en Afrique, et il y a 70 000 ans, une partie des gens de notre espèce, des sapiens, vont sortir d'Afrique et vont coloniser tout le reste de la planète. Donc en fait, ça fait pas longtemps qu'on vit dans des endroits partout sur la planète. Enfin, pas longtemps à mon échelle. Hein, 60 000 ans, voilà, c'est il y a pas longtemps pour moi.
Mais et c'est la seule espèce qui est aussi répandue dans toutes les régions de la planète, notre espèce.
C'est fascinant. Les autres grands singes, ils sont restés, entre guillemets, là où ils étaient. Vous voyez, les chimpanzés, les gorilles, ils sont grosso modo en Afrique centrale et eux, ils ne sont jamais partis d'Afrique. Alors que nous, notre espèce, elle est partie explorer toute la planète. Et c'est d'autant plus fascinant qu'il n'y a pas de raison, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'astéroïdes, il y avait à manger en Afrique. C'est vraiment, on pense que ça s'est fait par hasard, déjà qu'on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on bougeait, qu'on allait comme ça explorer toute la planète. Et aussi, moi, je pense qu'il y a un facteur de curiosité. Je pense qu'on est une espèce curieuse, c'est-à-dire on a envie d'aller voir de l'autre côté de la colline. Donc toutes ces migrations se sont faites petit à petit, c'est quelques kilomètres par génération, mais certainement poussées par une curiosité.
Alors vous parlez justement des grands singes qui n'ont pas beaucoup bougé, contrairement à notre espèce qui s'est répandue partout. Il y a 2 semaines, nous avions la chance de rencontrer France Deval, le grand primatologue. Il nous a rappelé que nous sommes nous aussi des primates et qu'il n'y a que 1,2% de différence entre l'humain et le chimpanzé. Alors comme ça, on a l'impression que c'est pas beaucoup, 1,2% de différence, mais en fait c'est énorme.
Oui, parce qu'alors si on recompte sur les 3 milliards de lettres, ça fait quand même 30 millions de lettres qui sont différentes, donc ça fait pas mal finalement. Et c'est vrai que d'arriver à comprendre ce qui fait de nous, dans le génome, plutôt des humains que des chimpanzés, c'est assez compliqué. Il y a des choses où on voit qu'il y a des différences nettes entre les deux espèces. Mais il y a aussi, parce que c'est toujours, on se rend compte, plus on travaille la génétique, plus c'est compliqué, qu'en fait, vous savez, les gènes, ils peuvent s'exprimer plus ou moins, et donc il y aurait des effets non seulement de différence dans nos gènes, mais de différence dans la manière dont s'expriment nos gènes. Mais ça, c'est encore un grand point d'interrogation de la science, hein.
Ah oui, les différences, quand on aligne deux génomes séquencés d'un humain et d'un chimpanzé, qu'on regarde...
On les voit là où elles sont les différences, mais de savoir exactement à quoi elles correspondent et qu'est-ce qu'elles font, il y a encore plein d'équipes qui travaillent là-dessus. Hein.
Alors, vous travaillez, ce qu'il y a au cœur également de votre livre, La vie secrète des gènes, c'est le poids de la culture sur la génétique. Ainsi, notre ADN fait de nous des êtres humains et nous confère de nombreuses aptitudes. L'inverse est vrai aussi, hein, nos comportements influencent nos gènes, du moins à l'échelle des populations. Notre espèce est imbibée de culture et ça se voit dans notre génome.
Incroyable. Non, je vais vous faire... Il y a un exemple qui est vraiment parlant parce que c'est le plus facile à expliquer pour expliquer ce mécanisme, c'est la capacité à digérer le lait. C'est très facile. En fait, nous, on est un mammifère, hein, tout le monde le sait, et chez les mammifères, on a une manière de digérer le lait. Dans le lait, il y a un sucre qui s'appelle le lactose, qui est un gros sucre. Il faut le couper. Pour le couper, on a une enzyme qui s'appelle la lactase, qui va couper votre lactose en sucre plus petit, le glucose que tout le monde connaît, et aussi le galactose. Et ben, chez les mammifères, les enfants digèrent tous le lait. Le veau, il tète le lait de sa mère. Mais cette enzyme qui permet de couper ce sucre s'arrête quand on est adulte, chez tous les mammifères. La vache ne digère pas le lait. Mais il y a des populations humaines où les adultes ont gardé cette capacité à digérer le lait. Et on s'est rendu compte, en faisant des études génétiques, qu'en fait, ils portaient une mutation particulière et que cette mutation, elle avait commencé à devenir importante et à augmenter en fréquence au moment où on s'est mis à consommer beaucoup de lait frais, c'est-à-dire le moment où on a domestiqué les animaux, où on a eu beaucoup de lait frais dans notre alimentation, eh bien, une mutation qui permettait aux adultes de digérer le lait a commencé à se répandre. C'est-à-dire que ceux qui avaient la mutation, ils se reproduisaient mieux, ils survivaient mieux, et qu'au fil des générations, elle a augmenté en fréquence. Et donc, dans les zones du monde où on a eu cette culture de boire du lait frais, on voit une très forte fréquence de cette maladie. Par exemple, en Europe du Nord, 80-90% des adultes digèrent le lait. Il y a une autre mutation qui explique ça dans certaines populations en Afrique, d'autres au Moyen-Orient. Mais il y a des populations qui boivent plein de lait et qui n'ont pas cette mutation. Point d'interrogation.
L'intolérance à la lactine. Dans votre ouvrage, d'ailleurs, vous citez aussi un autre exemple. Je vous en propose une lecture. En tant qu'être humain, nous transmettons nos gènes comme tout organisme vivant sur Terre. Mais, à la différence d'une bactérie ou d'un mimosa, nous possédons une particularité extrêmement développée. Nous transmettons aussi de la culture. L'UNESCO considère la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Cette définition, au sens large, qui s'étend bien au-delà de la seule culture matérielle ou artistique, englobe notamment les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Or, certains de ces traits culturels peuvent avoir une importance dans l'évolution génétique de notre espèce et sa diversité. L'alimentation est peut-être le secteur où ce mécanisme transparaît le plus. Par notre mode de vie, nous modifions notre environnement et en retour, parfois, nous nous sommes adaptés à ce nouvel environnement. C'est le cas des Inuits du Grand Nord, qui se nourrissent de la pêche et de la chasse de mammifères marins. Ils mangent donc beaucoup de viande grasse. En étudiant génétiquement ce peuple, les biologistes ont observé une mutation du gène FADS1 qui facilite la digestion des gras de type oméga-3. Cette mutation est devenue avantageuse il y a quelques milliers d'années. Les individus porteurs digéraient mieux la nourriture grasse et se sont mieux reproduits. Ils ont mieux survécu aux aléas de leur existence rude et ont mieux transmis leur ADN. Au fil des générations, cette mutation a augmenté en fréquence et est maintenant portée par tous les Inuits. On aime beaucoup parler de nourriture dans cette émission. Est-ce que, là, on vient de parler de la tolérance à la lactine, là, nous avons l'exemple des Inuits. Vous dites dans votre livre, l'influence de l'alimentation, c'est quelque chose de très visible. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de la culture qui a un impact considérable sur la génétique ?
Oui, on a l'exemple des systèmes de parenté. On a l'exemple des langues. Donc, par exemple, les langues, c'était pour ça que j'avais voulu monter le projet en Asie centrale. En fait, la question, c'était de se dire, est-ce que le fait qu'on parle des langues différentes va faire qu'on va avoir des différences génétiques entre les populations? Et effectivement, quand on a eu la chance d'étudier ça en Asie centrale, où il y a une très forte richesse linguistique, et on trouve effectivement que les gens, quand ils parlent des langues différentes, comme ils se marient moins entre eux, ça va créer des petites différences génétiques. Alors, pas des choses énormes, mais des petites différences quand même qui permettent de retracer que, par exemple, que si vous êtes dans un village, vous allez préférer vous marier à 1000 km de là avec quelqu'un qui parle la même langue que dans le village d'à côté avec quelqu'un qui parle une langue différente. Donc ça, c'est un autre exemple, de très culturel, qui a un impact sur notre diversité génétique.
Alors, ce que raconte aussi notre génome, mais c'est ce qui caractérise le mieux notre espèce, c'est le métissage. Il y a toujours eu des mélanges et des migrations jusqu'à cette découverte étonnante.
Prenez un Français moyen comme moi, un Papou ou un Chinois. Nous possédons tous les trois 1 à 4% de gènes issus de l'homme de Néandertal. C'est ce que révèle une étude parue dans la revue américaine Science. En Allemagne, une équipe internationale a décortiqué l'ADN d'ossements vieux de 30 à 40 000 ans. Résultat, les chercheurs ont décrypté le génome de Néandertal. Et avec lui, une histoire nouvelle apparaît. Lorsque l'Homo sapiens quitte l'Afrique, il rencontre au Proche-Orient, dans l'actuel Israël, l'homme de Néandertal. Ils se croisent au sens biblique du terme. Leurs descendants partent ensuite conquérir le reste du monde. Population à l'époque, moins de 20 000 hommes.
On a maintenant la preuve que l'homme de Néandertal n'était pas cousin de l'Homo sapiens, c'est-à-dire de nous-mêmes, n'est pas non plus complètement un frère, mais est en tout cas un hominidé avec qui nous pouvons nous croiser et avoir des descendants.
On est donc loin du Néandertal d'Épinal ou d'Hollywood. Longtemps, une image de brute épaisse et cervelée lui a collé à la peau, rendant improbable son alliance avec nos ancêtres Homo sapiens. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, il fait un peu plus partie de la famille. Reste un dernier mystère à élucider, celui de sa disparition brutale il y a 30 000 ans.
Alors une archive de 2010, une archive récente, comment vous réagissez à cette époque, Evelyne Neuer ?
Ça a été extraordinaire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que le découvreur, de cette nouvelle avancée, la paléogénétique, et tous les résultats qui en viennent, Svante Paabo a eu le prix Nobel il y a deux semaines, et ça a été vraiment magique. Ça a été magique déjà qu'on arrive à lire de l'ADN dans des ossements de restes humains aussi vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, et qu'en les comparant avec notre ADN actuel, on arrive à démontrer formellement qu'il y a eu un croisement avec notre cousin, l'homme de Néandertal, qui lui était issu d'une sortie d'Afrique plutôt d'environ 600 000 ans. Enfin, pas lui, ses ancêtres. Et du coup, ça a ouvert vraiment tout un champ dans la discipline, le fait de pouvoir extraire l'ADN finalement d'espèces qui sont maintenant disparues, dans le cas de Néandertal, mais aussi de populations qui sont disparues. Parce que depuis, lui, il a ouvert une fenêtre sur tout un champ disciplinaire. Alors Néandertal, c'est vraiment le truc remarquable, comme je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde, l'homme de Denisova, si. Mais il y a eu d'autres choses depuis. On fait de l'ADN ancien, de la paléogénomique, du 19e siècle jusqu'à il y a 50 000 ans, donc toutes les périodes temporelles de ces derniers 10 milliers d'années sont explorés. Bon, le bémol, c'est qu'on n'arrive pas trop à le faire en Afrique, parce que malheureusement, dans les pays tropicaux, l'ADN est trop abîmé, et du coup, on en a très peu, et c'est vraiment dommage, parce que c'est un continent où il y a tellement de choses à aller voir.
Oui, c'est ça, c'est que les conditions permettent l'ADN trop ancien se dégrade. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'homme de Denisova, qu'on a trouvé, enfin une phalange, dans une grotte en Sibérie.
Incroyable, hein.
Alors là, une nouvelle espèce à partir d'un bout de doigt dont on arrive à extraire de l'ADN.
C'est extraordinaire. Donc en fait, ils fouillaient là parce qu'il y avait des Néandertals, ils tombent sur un bout de phalange, ils font l'ADN, mince, c'est pas ni un sapiens, nous, ni un Néandertal, c'est encore autre chose. L'homme de Denisova. Et après, on a pu montrer, parce qu'après, ils ont pu avoir plus de données d'ADN, ils ont pu montrer, oui, que finalement, c'est le cousin à l'est de l'homme de Néandertal. Donc, on va dire que nous, on est grand cousin de Néandertal, qui est un petit cousin, qui est l'homme de Denisova. Et donc, l'homme de Denisova, lui aussi, s'est mélangé avec notre espèce quand on est allé vers l'est de l'Eurasie. Et ce qui fait qu'on retrouve du génome de Denisova dans les populations à l'est, plutôt vers le sud de la Chine, mais aussi toute l'Océanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., qui eux ont des petits bouts d'ADN de Néandertal et de Denisova.
Alors nous on a un peu, donc comme on a tous un peu de Néandertal en chacun de nous, à peu près 2%. Comment on arrive à 2%?
Alors, le nombre, un collègue avait estimé que le nombre de minimum de croisements qui avaient fonctionné, c'est-à-dire où il y a eu une descendance entre un néandertalien et un sapiens, il en faut au moins 150 pour arriver à ces 2%. Donc, c'est pas énorme non plus, parce qu'en fait, on se côtoie pendant plusieurs millénaires, et donc il a suffi qu'il y ait eu, je dirais, au moins 150 rencontres qui ont été au-delà du dîner aux chandelles et qui ont permis de que nous récupérions un petit peu de l'ADN de Néandertal. Alors pour l'essentiel, les 2% de ce qu'on récupère, ça change rien. Hein. Je vous ai dit, il y a plein de bouts dans l'ADN non codant, etc. Mais il y a des petits bouts intéressants.
Mais des bouts avantageux, c'est quoi par exemple les bouts avantageux de Néandertal dont on a hérité?
Alors là, pendant l'épidémie de Covid, les chercheurs ont montré qu'il y avait des différences de susceptibilité génétique au Covid et que dans certains cas, vous aviez reçu des bouts de Néandertal qui vous protégeaient et dans d'autres cas, des bouts de Néandertal qui faisaient que vous aviez une forme plus grave. On sait aussi qu'il y a des bouts du génome qu'on a reçu de Néandertal qui seraient impliqués des fois dans plus de diabète, des fois dans moins de diabète. On en est encore au balbutiement de passer vraiment d'une différence génétique à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait. C'est encore, je dirais, les travaux actuels de la recherche.
J'ai vu aussi qu'il y avait des études, comme vous dites, hein, c'est des balbutiements, mais des gènes de sensibilité à la douleur ou encore des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau qui viendraient de Néandertal.
Oui, des gènes dans la cicatrisation de la peau surtout. Bon, point d'interrogation. Alors maintenant, il y a des nouvelles techniques. Donc, par exemple, encore une fois, Svante Paabo, qui est vraiment un chercheur de très grand talent, hein, il est arrivé à faire des multiplications de petites cellules du cerveau pour faire des espèces de mini-cerveaux dans lesquels il a mis des mutations spécifiques Néandertal pour voir ce que ça changeait. Et effectivement, il y a, en tous les cas, il a testé jusqu'à maintenant 2 mutations où on voit que la manière dont les cellules se multiplie plus ou moins vite et différente entre Néandertal et nous.
Alors un humain actuel a donc seulement 0,13% de différence avec un Néandertalien. C'est assez fascinant de voir que si peu de différences génétiques produisent deux espèces que l'on peut clairement identifier. Parce qu'entre Homo sapiens et Néandertal, c'est assez... Enfin, les crânes nous disent que c'est vraiment deux espèces humaines différentes.
Ouais. Et c'est fascinant. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est, si vous voulez, cette paléogénétique et cet ADN ancien de Néandertal a permis de voir qu'il y avait des croisements, mais a permis aussi d'interroger qu'est-ce qu'il y a de différent entre un sapiens et un Néandertalien. Et il n'y a que 60 à 100 gènes qui sont différents spécifiquement entre les deux espèces. C'est-à-dire, on a des gènes avec des lettres différentes, tous les humains et tous les Néandertaliens. Donc, c'est pas beaucoup. Et pourtant, ça fait des espèces où, d'après ce qu'on voit, il y a quand même des différences en termes de comportement, de mode de vie, etc.
De morphologie.
Oui, de morphologie.
Néandertal.
Las Casetes Néandertal à 16h40 sur France Culture, car nous parlons du grand métissage humain que nous raconte notre génome avec Evelyne Heyer, anthropogénéticienne qui publie La vie secrète des gènes aux éditions Flammarion. Il y a un chapitre qui s'intitule « Existe-t-il des races humaines ? Qu'en dit la génétique ?»
Bon, ben, beau sujet. Alors, ce que la génétique montre, c'est qu'il y a très peu de différences entre les populations humaines. C'est-à-dire, si vous les prenez même entre différents continents, il y a effectivement très peu de différences entre les populations humaines. Beaucoup moins que si vous comparez des races de chiens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le terme de race n'est pas approprié pour décrire la diversité génétique humaine. Ça, c'est le premier point. Tout ça parce qu'en fait, on a toujours beaucoup migré. Il y a toujours eu des échanges entre les populations. Et le deuxième point fondamental dans l'idée de race, on associe, par exemple, le racisme lié à la couleur de peau, une couleur de peau avec des comportements. C'est un des fondements du racisme. C'est ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est une naturalisation de la couleur de peau. Or, la génétique, elle dit clairement que les variations de couleur de peau s'expliquent par des petites mutations dans l'ADN qu'on connaît et que ces petites mutations n'expliquent que la couleur de peau. Elle n'explique aucun des comportements qu'en général on attribue à une couleur de peau quand on a une vision raciste de la société. Donc la génétique amène deux déconstructions. La première, qu'il y a très peu de différence entre les êtres humains, quels que soient les endroits d'où ils viennent de la planète, qu'on est tous cousins. Et la deuxième, que cette idée d'essentialisation ne tient pas du tout la route.
Oui, c'est ça ce que vous écrivez. La génétique réfute la notion de race humaine. C'est une invention sociale.
Tout à fait.
Point.
Bien dit.
Alors, vous êtes d'ailleurs un commissaire scientifique de l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » qui a commencé au Muséum National d'Histoire Naturelle en 2017, une exposition qui tourne et qui est actuellement au Muséum de Bordeaux. Cette exposition pose une question, hein, comment éviter la récupération de l'anthropologie génétique par les théoriciens du racisme ?
Oui, parce que en fait, quelqu'un que je dirais qui a une pensée raciste va vous dire, moi, même s'il n'y a pas beaucoup de différences, moi, avec pas beaucoup de différences, ça me suffit pour traiter des gens différemment en fonction de leur apparence. Donc, en fait, l'idée, c'est d'expliquer qu'il y a des différences. On le voit, mais qu'il ne faut pas hiérarchiser ces différences. Il ne faut pas dire que quelqu'un est mieux ou moins bien qu'un autre. Et ça, c'est un message fondamental à faire passer, c'est-à-dire accepter nos différences. Il y en a, c'est chouette, il y a de la diversité, et vivre avec cette diversité sans mettre de hiérarchie sur ces différences.
Bah là, on assiste en ce moment à une résurgence quand même du racisme partout en Europe, même en France. Je dirais que la génétique, c'est un peu une clé de bras de cette résurgence-là.
Ouais, ben oui, c'est voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Moi, j'essaye d'expliquer. Voyez, avec l'ADN, on voit qu'on a tous des ancêtres migrants, que la migration, c'est quelque chose de fondamental dans notre histoire, qu'il y a toujours eu des mélanges dans tous les sens. De donner, je dirais, des informations de base exactes pour essayer d'amener à mieux penser le monde.
Alors, mieux penser le monde, je vais aussi nous faire profiter d'un extrait que j'ai adoré de votre livre. Écoutez. Nos ancêtres, comme les grands singes, avaient des poils sur le corps et donc, vraisemblablement, une couleur de peau plutôt claire. Ils ont sans doute perdu leur pelage il y a plus d'un million d'années. Cette évolution s'est déroulée en Afrique, dans des zones à fort ensoleillement. L'évolution a alors sélectionné toute une gamme de couleurs de peau foncée. Quand les Européens pâlissent-ils ? Grâce à l'ADN de fossiles, on peut estimer cette date. En effet, on connaît maintenant les mutations qui expliquent en grande partie les différences de couleur de peau entre les Africains subsahariens et les Européens. Et donc, en étudiant l'ADN de squelettes anciens, il est possible de se faire une idée de leur couleur de peau, de dresser une sorte de portrait robot. Et là, surprise. Les Européens du Paléolithique, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, étaient noirs de peau et avaient les yeux bleus. Cette pigmentation a duré longtemps. Un chewing-gum en résine de bouleau, mâché par une femme, vivant au Danemark il y a seulement 5700 ans, a capturé son ADN, elle aussi, était brune de peau et avait également des yeux bleus. Arrivés avec un faciès sombre en Europe il y a 40 000 ans, les Européens ont conservé cette apparence au moins jusqu'à il y a environ 6 000 ans. Des Européens de peau noire, certains doivent s'étrangler.
C'est pas si noir. En tous les cas, c'est foncé. En tous les cas, ils portent des mutations où, à l'heure actuelle, s'ils sont associés à des couleurs de peau foncée. Et en fait, la couleur de peau claire, c'est quelque chose de récent dans l'évolution. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant qu'on puisse retrouver ça avec les données des fossiles.
Ce que vous dites au fur et à mesure de ces pages, on est finalement tous des ancêtres migrants.
Oui, on a tous des ancêtres migrants, ne serait-ce que déjà, comme notre espèce, elle émerge en Afrique, tous ceux qui vivent à l'extérieur de l'Afrique, ils ont forcément des ancêtres migrants, mais à toutes les époques de l'histoire, on voit des migrations. Alors l'essentiel des migrations se sont faites de proche en proche. Vous avez déjà une colonisation de proche en proche de toute la planète, et puis après ça, des échanges de proche en proche entre les différents villages. Et d'ailleurs, un des résultats les plus extraordinaires aussi qu'a amené la génétique, c'est de montrer que dans notre espèce, ce sont surtout les femmes qui sont migrantes, et ce sont surtout elles qui ont bougé.
Ah, et bien justement, j'allais y venir, parce que on continue de déconstruire les clichés. Dans votre livre, vous vous intéressez plus particulièrement aux femmes dans l'histoire, contrairement à vos précédents ouvrages. Alors comment l'ADN a-t-il permis de déconstruire justement certaines idées préconçues de la place des femmes dans l'histoire ?
En fait, il y a deux grands champs où ça a déconstruit. Il y a un champ où on va dire sexer des restes osseux, c'est-à-dire il y a des restes osseux où visiblement on leur avait attribué à tort un genre. On pensait que c'était des hommes parce qu'ils étaient dans des belles tombes, et on se rend compte après que ce sont des femmes, par exemple en testant avec l'ADN. Bon, il y a eu quelques cas comme ça. Il y a une fameuse femme viking. Il y a certaines chasseuses.
On croyait que c'était un chef de guerre. Et
voilà, c'était une chef femme,
de guerre.
Bref, il y a aussi quelques femmes dans les Andes. Bon, faut pas aller trop loin, hein. Ça veut pas dire que c'était la règle. Ça semble quand même l'exception. Mais enfin, c'est intéressant de savoir que ces exceptions existaient. Donc ça, c'est la première chose. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser l'ADN même que l'on a à l'heure actuelle, parce que dans notre ADN, on a des compartiments dans l'ADN. C'est-à-dire l'essentiel de notre ADN est dans le noyau, mais on a aussi de l'ADN dans ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont des petits machins dans la cellule qui servent à faire l'énergie. Et du coup, cet ADN mitochondrial est transmis par les mères, donc permet de retracer l'histoire des femmes dans notre histoire. Et en parallèle, dans notre ADN nucléaire, il y a un petit bout d'ADN qui est super intéressant, qui est le chromosome Y, qui lui est transmis par les pères. Et donc, on peut comparer l'histoire par les mères et l'histoire par les pères de notre espèce, et on se rend compte, en étudiant ça, que effectivement, dans notre espèce, ce sont surtout les femmes qui ont migré, beaucoup plus que les hommes.
Alors comment justement, pourquoi ce seraient les femmes qui auraient été à l'origine de nombreuses migrations ?
Eh ben en fait, parce qu'un des moments où on migre souvent dans la société, c'est au moment du mariage. Avec qui on va se marier ? Et quand on choisit quelqu'un, non pas dans son village, mais dans un autre village, qui va bouger ? C'est l'homme qui bouge ou c'est la femme qui bouge? Et il se trouve dans 60% des sociétés humaines, quand les gens se marient entre deux villages différents, c'est la femme qui va bouger, c'est ce qu'on appelle la patrilocalité. Et donc c'était par exemple le cas en France au début du XXe siècle en général, c'était madame qui allait vivre dans le village de monsieur. Et du coup, toutes ces migrations de proche en proche font que, in fine, sur l'ensemble de la planète, c'est surtout les femmes dans notre espèce qui ont bougé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi d'autres grandes migrations d'hommes. Il y a par exemple le chromosome Y qu'on attribue à Gengis Khan, mais ça c'est une autre histoire.
En tout cas, c'est ce qui explique ces changements génétiques observables, ces migrations féminines, et grâce justement à l'ADN mitochondrial.
Ouais, avec cet ADN mitochondrial, donc en fait on arrive à voir que les populations humaines se ressemblent plus pour leur ADN mitochondrial que pour leur chromosome Y, et des populations se ressemblent d'autant plus qu'elles échangent des migrants, et dans ce cas-là, des femmes.
Alors ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que vous avez travaillé également avec une autre paléanthropologue que j'aime beaucoup, qui est Marilène Patoumatis.
Ah ben, en Ardèche, elle faisait partie des gens importants pour la refondation du Musée de l'Homme. Et c'est une chercheuse pour laquelle j'ai énormément de respect et que je trouve aussi extraordinaire dans sa manière aussi de vulgariser les résultats de la science.
Oui, qui travaille plus particulièrement sur la place des femmes dans la préhistoire. Vous, en tant qu'anthropogénéticienne, quel a été l'apport justement de cet échange avec cette autre chercheuse ?
Eh ben, c'est intéressant parce que ça permet d'interroger sa propre discipline. C'est-à-dire qu'elle a travaillé, comme Claudine Cohen d'ailleurs, sur, je dirais, les biais que l'on peut avoir quand on fait de la recherche en fonction du genre que l'on a dans notre société. Et que c'est vrai que moi, d'avoir beaucoup regardé les systèmes de parenté, les femmes qui bougent, les hommes qui bougent, avec une collègue, Raphaël Schecks, c'est certainement aussi parce qu'on est des femmes. C'est pas anodin. On va faire la même recherche que les hommes, c'est-à-dire les méthodologies sont les mêmes. Il n'y a pas un cerveau féminin, un cerveau masculin qui ferait qu'on calculerait différemment. Mais par contre, dans les questions qui sont amenées dans la science, c'est vrai qu'on jette un nouveau regard en étant des femmes. On a une curiosité peut-être pour d'autres sujets.
Vous parlez des biais, je peux vous citer encore une fois dans ce livre. Petit jeu, fermez les yeux, imaginez la grotte de Lascaux à l'époque où se dessinaient les bisons. Que visualisiez-vous ? Des hommes peignant les peintures rupestres, je parierais. Pourtant, rien n'indique que ces artistes aient été masculins. Et si je vous demande de vous représenter un chasseur-cueilleur des âges glaciaires, celui qui s'imprime dans votre esprit porte la barbe, pas vrai ? Inutile de le nier, notre vision de la préhistoire est au minimum teintée, voire davantage d'un soupçon de machisme.
Tout à fait. Mais on ne sait toujours pas si c'est des hommes ou des femmes qui peignaient les grottes. Mais on peut dire que ce n'est pas forcément des hommes.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
(16h52) sur France Culture, nous entretenons avec l'anthropo-paléo... Oui, on va y arriver avec Evelyne Heyer, c'est vendredi, qui publie donc La vie secrète des gènes. C'est un essai organisé en chapitres thématiques qui mêle différentes disciplines scientifiques. Alors là, on a parlé de beaucoup de choses différentes. Je voudrais aussi qu'on parle épidémiologie et génétique. Ce qui est très intéressant, c'est comment les grandes épidémies se lisent dans nos gènes. C'est intéressant et ça a des résonances évidemment aujourd'hui en sortie de crise sanitaire avec le Covid-19.
Alors, c'est très intéressant parce que les pathogènes ont entraîné des adaptations. Quand vous êtes confronté à des pathogènes, finalement, pour peu qu'il y ait des individus qui résistent mieux aux pathogènes parce qu'ils portent les bons gènes, ils vont mieux se reproduire, ils vont mieux survivre et du coup ils vont transmettre leurs gènes à la descendance, à leur descendance. Et on se rend compte quand on étudie le génome humain, c'est les travaux que mène beaucoup l'équipe de mon collègue Luis Quintana Murci à Pasteur, et ils montrent très bien que les pathogènes sont une force dans notre évolution majeure. Autrement dit, on est les descendants de ceux qui ont résisté à plein d'épidémies dans le passé. Et ça, c'est fascinant. Et donc, dans l'ADN, on arrive à retracer finalement à quel moment il y a eu des sélections fortes pour certains pathogènes. D'où, par exemple, des travaux sur la tuberculose qui permettent de montrer à quel moment la tuberculose était vraiment un problème de santé dans les populations humaines.
Oui, c'est ça, c'est la génétique qui peut éclairer l'histoire de la tuberculose.
Tout à fait.
L'ADN, l'encyclopédie de nos origines, c'est aussi un livre d'histoire médicale.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que Svante Paabo a eu le prix Nobel de médecine et de physiologie. Parce que, en fait, à partir aussi de l'ADN ancien, on peut aussi suivre comment des mutations sont devenues importantes lors de certaines épidémies et du coup l'importance qu'elles pourraient avoir pour notre immunité.
Alors pour conclure, on arrive vers la fin de cette émission, puisque le génome est une formidable machine à remonter dans le temps, à comprendre le présent, peut-il nous aider à prédire l'avenir ? En voici un élément de réponse. Dans quelle direction ira l'évolution ? Question épineuse. Cela dépendra du hasard des mutations et justement de l'environnement dans lequel nous habiterons. Deux éléments bien difficiles à prédire. Inutile de lorgner vers des hypothèses fantasques de science-fiction, nous n'aurons pas les jambes plus courtes car nous marcherions moins, ni un sixième doigt pour mieux utiliser les smartphones. Et s'il est difficile d'anticiper à long terme où nous amènera le jeu de la vie, il y a au moins un aspect humain qui ne changera pas. Lequel ? Nos incessantes migrations. nous sommes une espèce qui a la bougeotte. En cela, nous nous distinguons de nos cousins, les grands singes non humains, qui sont restés rivés à leur berceau, l'Afrique tropicale et l'Asie du Sud-Est pour les orangs-outans. La migration fait partie du succès de notre espèce. Un futur sans ces échanges de gènes me semble irréaliste. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est la leçon que retient la généticienne anthropologue que je suis. Vous songez certainement davantage à un futur empli de fusées vers Mars ou de voitures volantes. Moi, j'imagine les déplacements humains. Et un ticket pour Mars, n'est-ce pas déjà une forme de migration ? Réaction à cette lecture ?
Ah bah oui, non mais écoutez, oui voilà, notre succès en tant qu'espèce est surtout lié, enfin en partie quand même pas mal à notre succès en termes de migration. Bon, après il y a aussi toutes les innovations techniques et culturelles qu'on a pu faire au cours de l'histoire. Mais elles ont été d'autant plus rapides qu'on échangeait entre groupes humains et donc qu'on migrait entre groupes humains.
Je voudrais, alors c'est vraiment la toute fin de cette émission, mais je voudrais pas vous quitter sans avoir posé cette question. Puisqu'on voit que votre livre est nourri de multitudes de références, c'est une question qu'on pose aux artistes, c'est aussi une question que j'ai envie de poser aux scientifiques. Vous, quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire?
Alors moi, j'ai une grande source d'inspiration, c'est quand je vais sur le terrain et que je vis et que je découvre d'autres manières d'être au monde. Et à chaque fois, ce qui m'interpelle, c'est cette extraordinaire universalité des questions humaines et en même temps, ces déclinaisons qui sont spécifiques de chaque endroit du monde. Et à chaque fois que je reviens du terrain, j'ai plein de questions de recherche.
Bien, merci de nous avoir inspirés, nous aussi, Evelyne Meyer, et de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que votre dernier ouvrage, La vie secrète des gènes, vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci encore.
Merci.
Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule, Mariam Ibrahim. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.
France Culture et Arte présentent la deuxième édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Avenir, environnement, incertitude, engagement, émotion. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Direct, débats et ateliers participatifs, docu-conf et plus encore. Les 21 et 22 octobre, à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et sur un site dédié. Infos et inscriptions, et maintenant-lefestival.fr.